Radiovostok.ch.
Complètement débule.
T'es débule ou bien?
On dirait qu'il te manque une case.
Débule ou bien?
Il te manque une case.
Complètement débule. L'émission qui parle bande dessinée.
Ce qui est bien avec la BD, c'est qu'on y trouve tous les genres.
Ok.
Et tous les sujets peuvent être traités. Selon l'humeur, on peut s'évader dans des scénarios d'aventure, fantastiques, humoristiques, dystopiques, futuristes, cyberpunk...
Ouais, t'en inventes là.
Bref, il y en a pour tous les goûts. Et aussi pour ceux qui veulent apprendre.
Moi vouloir apprendre.
Car oui, la BD peut être un formidable outil de vulgarisation.
Vulgaire toi-même, connard.
Par le dessin, le texte et le découpage, ce médium est parfait pour mettre en page ce qui semble parfois compliqué à expliquer. D'un coup, on comprend. On apprend.
Là, j'ai tout compris.
Et certaines collections surfent sur cette tendance. C'est le cas de la collection Les Incroyables Histoires, aux éditions Les Arènes BD.
Mmh.
Un titre d'ailleurs a retenu notre attention. L'Incroyable Histoire de l'Argent. Un album rondement mené par Benoît Sima. On en parle avec lui, mais juste avant, un mot sur cette fameuse collection. Salut Isabelle.
Salut John.
Bon, bah mais écoute, j'ai envie de dire, on commence par ces dames, pour parler avec toi un petit peu... des éditions Les Arènes BD, et puis peut-être même des éditions Les Arènes de manière plus générale. Fais-nous peut-être un petit historique rapide, c'est depuis quand Les Arènes BD sont dans le monde de l'édition, et depuis quand dans l'édition des bandes dessinées plus spécifiquement?
Alors, je vais commencer par les éditions des Arènes. C'est une maison qui a 30 ans, qui a été fondée par Laurent Beccaria. On a un spectre très large puisqu'on fait des docs, des enquêtes, de l'histoire, de la psy, de la jeunesse. Et en 2015, on a lancé un département BD. On avait déjà publié, avant de lancer ce département BD, des bandes dessinées de reportage. On avait cette tradition-là aux arènes avec les revues, la revue 21, normalement. Je ne sais pas si vos auditeurs se souviennent de cette revue 21 qui était pilotée par les arènes. Et en 2015, on rencontre Laurent Muller, un éditeur de bandes dessinées, qui était chez Glénat, qui était chez 12bis, et on lui propose de développer cette collection de bandes dessinées plutôt orientée vers les sciences humaines. Et les sciences humaines et le reportage, et c'est ce qu'on fait avec succès depuis 2015.
Alors effectivement, depuis 2015, avec un certain succès, puisqu'il y a des titres qui ont une belle résonance. Je pense notamment récemment à La vie secrète des arbres, l'adaptation en BD du livre de Peter Vollenben, ou encore Fin de règne, rétrospective de dessins de presse de Chapat, c'est une rétrospective de ses dessins de 2018 à 2023. Chapat qu'on connaît bien, puisqu'il est Genevois. Et puis aussi des collections qui s'établissent, notamment une collection Les Incroyables Histoires. Voilà, il commence à y avoir pas mal de titres. Ça va nous intéresser aujourd'hui, puisqu'on va parler d'un de ces titres précis, L'Incroyable Histoire de l'Argent. L'approche de cette collection, c'est quoi? C'est se cultiver en BD, une collection accessible et drôle, de vulgarisation? C'est les bons mots?
C'est tout à fait ça. C'est une collection qu'on a lancée il y a 5 ans. Maintenant, il y a 12 titres maintenant dans la collection. Et l'idée, c'est toujours d'associer un spécialiste du sujet et un dessinateur de talent. Et d'offrir au lecteur le moyen de se cultiver tout en s'amusant. Donc, c'est à la fois sérieux, validé scientifiquement, par le scénariste qui est spécialiste du sujet, et puis la patte du dessinateur qui met avec son dessin de l'humour dans le scénario. Et Benoît Sima, qui est à côté de moi, est l'auteur de plusieurs Incroyables Histoires 2, puisque Benoît a plusieurs casquettes.
La moitié de la collection, il faut le dire.
Pas tout à fait.
Alors on y vient. Salut Benoît.
Salut.
Alors effectivement, tu le disais, toi tu as fait la moitié des titres. Je vais en citer quelques-uns. L'incroyable histoire de la cuisine, l'incroyable histoire du vin qui a, je crois, été un carton, 115 000 ventes, ce qui est quand même un sacré chiffre dans le monde de l'édition et de la BD. L'incroyable histoire de la bière, l'incroyable histoire de l'argent. Alors je vais m'arrêter là et simplement dire Benoît, bouffe, alcool, argent, on a cerné le personnage.
Non, pas du tout. C'est plutôt qu'on a cerné les lecteurs qui s'intéressent à nos sujets.
Alors, je te taquine, effectivement, parce que j'ai, 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 J'ai omis l'histoire de la géographie, je crois aussi, parce que la thématique me paraissait moins sulfureuse. Mais effectivement, plus sérieusement, toi Benoît, tu es journaliste, essayiste et donc aussi scénariste de BD sur cette collection, Les Incroyables Histoires. Toi, qu'est-ce qui t'a amené du coup dans le monde de la BD ? T'es tombé comment dans ce métier de scénariste de BD ?
Au départ, j'étais tout simplement un lecteur de bande dessinée. À l'époque où j'étais encore un simple journaliste, au départ financier, puis ensuite économique, comme on dit. Et en fait, comme la BD documentaire, c'est devenu un genre à part entière assez récemment, je me suis dit que c'était le bon moment justement pour faire du journalisme en BD. Et puis c'est comme ça que c'est devenu des documentaires BD, notamment sous la férule du personnage dont on a parlé tout à l'heure, Laurent Muller, qui est le créateur de la collection. Et c'est lui qui nous a un petit peu drivés. Pour lancer cette collection de bandes dessinées qui doivent se concevoir vraiment comme des documentaires télé, hein. C'est vraiment le même principe, c'est-à-dire que c'est extrêmement sérieux mais c'est divertissant en même temps, et c'est la même construction qu'un beau documentaire télé, sauf que ça se fait sous forme de papier avec des héros de bande dessinée qui sont en l'occurrence des héros de la vie réelle.
On y vient. Nous, ton dernier album, il nous a beaucoup plu. Ce dernier album, il s'appelle L'Incroyable Histoire de l'Argent. Alors, voilà, c'est l'histoire complète, hein, qui va de Crésus au Bitcoin. Alors, tu vas nous dire pourquoi cet album, hein. Peut-être que la Suisse, on est le pays des banques et du franc suisse. C'est peut-être notre caractère vénal qui a fait que cet album nous a bigrement intéressés. Mais c'est aussi et surtout parce qu'en fait, finalement, tout le monde s'acharne à gagner de l'argent au quotidien, mais finalement, personne ne sait vraiment ce que c'est, ni ne connaît son historique. Donc, c'est un peu une première question pour toi. Comment toi, tu expliques qu'on passe notre vie, justement, à gagner de l'argent sans vraiment savoir ce que c'est ?
Y a deux réponses. La première réponse, c'est que l'argent, dans le système dans lequel on vit aujourd'hui, au XXIe siècle, le système capitaliste, c'est un petit peu le carburant, quoi. C'est-à-dire que ce système nous est imposé, on est né là-dedans, je parle de nous qui exerçons aujourd'hui, hein. Et on sait très bien que on est obligé d'en gagner, chacun à nos niveaux, parce que sinon on n'existe pas. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça, on sait que c'est comme ça. Ça, c'est la première réponse. Et la deuxième réponse, c'est que dans l'histoire, l'argent, ça a toujours été le véhicule d'un système économique, mais c'était plutôt un langage. Dès le départ, c'était une façon intelligente qu'ont trouvé les hommes et les femmes de communiquer entre eux quand ils ne se connaissaient pas et même quand ils ne parlaient pas la même langue. Et ça, on le retrouve dans toutes les civilisations et dans tous les cas de figure. Et c'est ça qui m'a particulièrement intéressé, c'est que l'argent, on ne sait pas ce que c'est, parce qu'on ne se rend pas compte qu'en fait, c'est comme une langue. C'est comme une langue universelle.
Alors voilà, c'est ce que tu nous racontes en BD. Puis tu pars de loin, tu pars des tout débuts de Sapiens. On commence en fait de manière chronologique. On est à quoi ? Moins 30 000 ans avant Jésus-Christ. Ma première question, avant peut-être d'aller un peu dans l'histoire, pour qu'on la traverse un petit peu avec toi, sans toute la raconter, parce qu'on, de toute façon, on n'aura pas le temps, c'est de savoir, l'album fait 200 pages, t'arrives à être quasiment exhaustif sur l'histoire de l'argent au travers du temps et des civilisations. Est-ce que ça a été un casse-tête de fou pour arriver à faire passer tout ça dans 200 pages ?
Alors, casse-tête de fou, si ça avait été ma première BD, comme il y a 5 ans, oui, c'est un casse-tête de fou parce que c'est un puzzle universel, donc on n'en vient jamais à bout, c'est infernal. Le premier, ça a été l'histoire du vin. Et c'est un sujet plus facile que l'argent, mais même ce sujet-là, c'était très compliqué de faire des choix, parce que si on fait 200 pages ou 300 pages, on est très limité, et donc on doit faire des choix. Donc il faut sélectionner les pièces du puzzle qui vont être idoines pour raconter cette histoire qui traverse le temps. Et donc pour l'argent, j'étais un peu plus préparé, puisque c'est ma sixième BD dans le genre, donc je commence à connaître le principe. Donc il fallait sélectionner les bonnes pièces du puzzle. Et donc, en fait, ce que je fais à chaque fois, c'est que je mets l'accent sur une innovation importante qui advient à un moment donné dans une civilisation particulière. Et puis, on va de chapitre en chapitre, comme ça, d'invention en invention. Et tout ça forme une histoire.
Alors, on va passer au travers de ces différentes sortes d'évolutions dans la vie de la monnaie. Avant, je voulais aussi revenir sur le narrateur de cette BD, puisque tu as fait un choix qui est à la fois moderne et peut-être engagé, ça va être une de mes questions. La narration est faite par Satoshi Nakamoto. Alors l'adage dit que l'argent n'a pas d'odeur, mais avec Satoshi Nakamoto, elle n'a pas de visage non plus. Pourquoi lui pour accompagner le lecteur ?
C'est simple, c'est un personnage mythique dans le monde de l'argent et de la finance aujourd'hui. C'est un personnage mystérieux. Alors les auditeurs ne connaissent pas forcément Satoshi Nakamoto. C'est l'inventeur supposé du Bitcoin, mais on ne sait pas vraiment s'il existe. On ne sait pas si c'est un groupe de hackers, on ne sait pas qui c'est en fait. C'est sans doute un collectif, et c'est quelqu'un qui a organisé sa propre disparition il y a 10 ans déjà. Donc il y a un petit flou artistique très intéressant artistiquement justement autour de ce personnage, et ça nous a paru très intéressant de le prendre comme narrateur, parce qu'en fait le Bitcoin c'est la fin actuelle de l'histoire de l'argent. L'histoire elle n'est pas terminée, elle va se poursuivre. D'ailleurs le Bitcoin va sans doute peut-être disparaître, il n'y aura peut-être pas de longévité. En tout cas aujourd'hui, la fin de l'histoire, la dernière grande innovation financière, c'est le Bitcoin. Donc on s'est dit, bah, on va commencer par la fin de l'histoire pour raconter le début. Et d'ailleurs, j'ajoute un point important, et peut-être que je précède une de tes questions, John. Le Bitcoin, c'est de l'argent virtuel, on est d'accord. Eh bien, les lecteurs de l'incroyable histoire de l'argent vont s'apercevoir qu'au début, l'argent, il est déjà virtuel.
Alors, tu vas trop vite, tu vas trop vite. J'allais y venir, je voulais commencer par ça, parce que maintenant, ce que je voulais te proposer, c'est qu'on traverse un petit peu la chronologie et que tu nous accompagnes. On ne peut pas toute la faire, comme je le disais, mais effectivement, on commence avec Sapiens. Et l'une des premières surprises, c'est qu'à cette époque, la monnaie virtuelle, bah, finalement, elle existe. C'est une sorte de paléo-monnaie virtuelle sous forme de dette sociale. On se serait attendu à ce que tu nous parles du troc, mais finalement, avant le troc, il y avait cette forme de dette sociale qui est basée sur la confiance. Raconte-nous un peu justement ça.
Alors, ça a été une de mes découvertes de lecture, parce que bien sûr, je m'appuie sur les travaux des anthropologues et des paléontologues hein, qui étudient les très anciennes civilisations avec leur méthode. Et donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est que nos très lointains ancêtres, sapiens, donc là, on est au paléolithique, on est en moins 25 000 ans, quelque chose comme ça, et ben, ils ont déjà une monnaie qui est virtuelle. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas besoin, en fait, de pièces de monnaie. C'est quoi, sapiens, à l'époque ? C'est des petites tribus de 150 personnes. Tout le monde se connaît. Et quand tout le monde se connaît, vous savez, c'est comme une grande famille. Hein, on n'a pas besoin de billets de banque ou de pièces. Donc, effectivement, bah, ils ont ce qu'on appelle une dette sociale. C'est un mot un peu barbare pour expliquer que, voilà, tout le monde sait très bien ce que chacun doit à l'autre. Bon. Par contre, avec la tribu d'à côté, en qui ils n'ont pas confiance, parce que l'argent, l'économie, c'est une question de confiance, c'est toujours la même chose. Et ben, pour ces gens-là, ils ont besoin de faire un système différent. Et c'est là où le troc, en fait, est utilisé. On échange des choses. Et c'est là aussi où va être inventées les premières formes de monnaie sous forme de coquillages ou d'objets précieux. Il va y avoir des échanges. En fait, plus les échanges sont monétarisés dans le réel, moins on connaît la personne avec qui on fait des échanges. C'est ça un peu l'enseignement de la monnaie d'il y a très longtemps.
Alors voilà, très vite, on comprend que ce mot très important, confiance, c'est un peu la base de tout. On parle de la monnaie comme d'un langage. Le premier vecteur de ce langage, c'est ça, c'est la confiance.
C'est la confiance, exactement. Si vous connaissez quelqu'un, vous n'avez pas besoin d'argent, en fait. Enfin, du moins, l'argent n'a pas besoin d'être réel. Il peut être virtuel. Par contre, si vous ne connaissez pas, eh ben, il va devenir matériel. Et c'est pour ça que, alors là, je passe à la deuxième évolution, au moment du néolithique, quand les hommes et les femmes s'installent et croissent et se multiplient, bah, on se connaît de moins en moins parce qu'il y a de plus en plus de monde. Et c'est là que vraiment, véritablement, les premières formes de monnaie se répandent parce que les humains ne se connaissent plus.
Alors voilà, là on arrive à la première étape, donc néolithique, la monnaie marchandise. Ce qui est intéressant de noter, c'est que voilà, cette monnaie marchandise, elle a coexisté avec toutes les monnaies carrément jusqu'au 19e siècle. Dans certaines régions d'Afrique, on s'est échangé encore des coquillages jusqu'au 19e siècle. Et ça, c'est la monnaie marchandise.
Oui, exactement. Alors ça, en fait, la monnaie marchandise, c'est la grande monnaie du néolithique. Et c'est la grande monnaie qui naît avec les villes, les premiers grands villages. Et on a besoin de cette innovation. Et la morale de l'histoire, c'est que toutes les innovations financières, donc celle-là, la monnaie marchandise, par exemple, elles vont traverser le temps, effectivement. Ce n'est pas parce que la prochaine innovation va arriver, par exemple les billets de banque ou par exemple la monnaie écrite, que la monnaie marchandise va disparaître. Au contraire, elle va subsister très longtemps. Et effectivement, tu as raison, on s'aperçoit que dans les colonies françaises et anglaises du 19e siècle, on pouvait payer ses impôts avec des corisses, des coquillages, que s'échangeaient déjà nos lointains ancêtres il y a 10 000 ans. C'est quand même extraordinaire.
Une lente évolution au fil du temps, au fil des usages, au fil des civilisations. Ensuite, on va arriver à ce que tu appelles ou ce qui s'appelle la proto-monnaie métallique. Là, on est un peu plus tard, sous l'Antiquité, troisième millénaire avant notre ère. C'était quoi, la proto-monnaie métallique ?
Ah, les premières monnaies métalliques, c'est quand naissent les premiers empires. Là, c'est plus les villes, c'est les empires. Donc, c'est un moment important de l'histoire. Ça coïncide d'ailleurs avec l'invention de l'écriture. C'est un moment très important que tous les écoliers que nous avons été connaissent, c'est-à-dire c'est Sumer, c'est la Mésopotamie. Et c'est là qu'on invente les premières formes de monnaie métallique sous forme de barres, qui très vite vont devenir des pièces de monnaie hein, sous une civilisation grecque ultérieure. En tout cas, c'est là qu'on commence à écrire l'argent, à écrire les valeurs, à avoir des systèmes de compensation, d'échange. Et quelque part, l'écriture a aussi été inventée, non pas pour raconter des paraboles sur les grands anciens, mais aussi pour compter.
Alors voilà, ça on le distingue aussi dans cette historique que tu nous dresses dans la BD. Donc voilà, on arrive avec les pièces de monnaie qui sont faites en argent, en bronze, en or. D'ailleurs, c'est intéressant aussi de revenir sur l'or. Pourquoi l'or? Tu rappelles les vertus de l'or? Parce qu'il est dense, parce qu'il est ductile, inoxydable. Tu veux dire un mot là-dessus, peut-être sur l'or?
En fait, l'or c'est la grande valeur qui a traversé l'histoire, parce que très tôt, on s'est aperçu que c'était un métal extraordinaire. Qui survivra à tout, et surtout à notre civilisation. C'est-à-dire, toutes les pièces d'or qui ont été fabriquées, si elles n'ont pas été perdues au fond des océans, sont toujours là. Elles sont inaltérables, comme les bijoux, en fait. Et donc, très tôt, ça a été considéré comme la valeur ultime. Et d'ailleurs, aujourd'hui, au XXIe siècle, après les dernières crises économiques, bah, qu'est-ce que font les gens? Ils achètent de l'or. Et le cours de l'or explose. Donc l'or, ça... En fait, l'or mériterait un livre à part entière.
Et puis à cette époque-là, donc on est à l'Antiquité, les grands penseurs commencent aussi à s'intéresser au phénomène monétaire et de l'argent, la théorie de la monnaie avec Aristote. Et puis là, ils jettent les bases. Hein. La monnaie, c'est quoi? Une unité de compte, un intermédiaire d'échange, une réserve de valeur. C'est toujours vrai.
Oui, c'est toujours vrai. Et puis c'est ce que diront les premiers économistes du système capitaliste un millénaire et demi plus tard. C'est-à-dire que très tôt, on s'aperçoit que voilà, ça a un rôle central dans le système. Alors, on ne dit pas langage. Hein. Moi, je dis langage dans tout bouquin, parce que je trouvais cette thèse, qui n'est pas la mienne, bien sûr, qui est la thèse des anthropologues, mais très intéressante. Mais les premiers penseurs de l'économie de l'argent, ils disent voilà, c'est très important dans le système d'avoir... un moyen d'échange, numéro un, et numéro deux, une réserve de valeur, parce que c'est comme ça que toutes les sociétés vont fonctionner à partir de cet instant-là, à commencer par la civilisation grecque.
Et puis doucement, on arrive à la monnaie papier, l'ancêtre des billets, c'est finalement une reconnaissance de dette. On a l'impression que chaque avancée donne aussi l'impression de faire exploser les échanges. Et puis à un moment, on se demande en fait si... il y a plus d'échanges parce qu'il y a plus d'argent, ou il y a plus d'argent parce qu'il y a plus d'échanges. Toi, tu vois ça comment?
C'est très simple et très compliqué à la fois. C'est-à-dire qu'on invente la monnaie papier quand les besoins en monnaie métallique sont trop importants. Parce que les Chinois, s'ils inventent le billet de banque, ce n'est pas parce qu'ils sont plus malins que les autres ou parce qu'ils ont inventé le papier. C'est surtout que leur commerce explose en Asie à l'époque des Tang et à l'époque des Song, donc les grandes civilisations impériales chinoises. Et donc, ils ne peuvent plus transporter ce qu'on appelle les sapec, les pièces de monnaie chinoises, les petites pièces de monnaie avec un trou au milieu. Donc, ils sont obligés d'inventer l'écriture de l'argent pour pouvoir transporter plus facilement ces valeurs. Par contre, dès qu'on revient à des périodes de guerre, et c'est le cas pour les Chinois, qui dit guerre dit fin de la confiance, dit fin du marché, dit fin des activités florissantes. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On revient aux pièces de monnaie. Donc, en fait, c'est toujours pareil avec l'argent. L'histoire, elle est jamais linéaire, elle est toujours circulaire. C'est-à-dire qu'on revient toujours au point de départ. D'où ma réflexion sur l'or tout à l'heure. Il y a 5 ans, le cours de l'or a explosé parce qu'on était en crise économique. C'est toujours la même histoire.
Tout est cyclique.
Tout est cyclique et pas linéaire.
L'incroyable histoire de l'argent aux éditions Les Arènes BD. On en parle avec toi, Benoît Simat. Et alors, petit à petit, donc au fil de ton album, on voit que va naître le monde de la finance tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et puis, on voit que justement, en fonction de certaines civilisations ou zones géographiques, il y a des choses qui se passent. Je pense par exemple aux Lombards à l'époque de la Grande Venise. Alors eux, ils vont mettre en place plein de choses. Le taux de change, le système de garantie qui est l'ancêtre de la bourse, la dette de change qui est finalement la vente de la dette. Eux, ils ont eu un impact, si on pense finance, assez important finalement, non?
Oui, ils ont inventé la finance moderne telle que nous, on la connaît dans notre civilisation occidentale. Et s'il y avait une seule innovation financière à mettre en avant à cette époque, donc au XIIe siècle, c'est cette idée de se revendre les dettes les uns les autres. Parce que ça, je ne sais pas si on s'en rend compte, mais avant, dans toute l'histoire de l'humanité, personne n'avait fait ça. C'est-à-dire quand on avait une dette vis-à-vis de quelqu'un, on allait voir ce quelqu'un, on se faisait rembourser, quel que soit le moyen employé. Mais les Lombards, ils vont avoir cette idée géniale de se revendre les dettes les uns les autres et donc de créer de la monnaie. Parce qu'aujourd'hui, la notion de création de monnaie, ça nous paraît très, très banal. On entend nos présidents respectifs créer de la monnaie pour supporter les crises économiques ou réinjecter de l'argent dans le système, comme on dit. Mais jusqu'au XIIe siècle, ça n'existait pas. Personne ne créait de l'argent. Et ben, les Lombards, ils ont cette innovation incroyable qui consiste à se revendre des papiers de dette entre eux. Et donc, comme ils se le revendent, ils font un petit bénéfice. Et du coup, le papier qui vaut 100 ducats, il vaut 120 ducats. Et donc, vous avez créé 20 ducats de plus. Donc, vous avez, comme disent les économistes, augmenté la masse monétaire. Ça et fait. ça, Ça a changé le monde. Le monde ne sera plus jamais pareil après cette invention.
Voilà, au fil de l'histoire, l'argent qui devient un outil de puissance, de contrôle, une arme de guerre. Et aussi, on distingue certaines grandes monnaies qui ont aidé certaines grandes civilisations. Alors, il y en a plein. Hein. Moi, j'en ai noté quelques-unes, mais c'est simplement pour les évoquer avec toi. Et peut-être que tu nous dis celle qui t'a le plus marqué. Moi, j'ai noté l'Alexandre, le sesterce, le dinar et bien sûr le dollar. Toi, si tu devais en retenir qu'une, ce serait laquelle ?
On connaît tous le dollar parce que la règle est immuable. La monnaie la plus puissante du monde est toujours... ou d'un continent, est toujours la monnaie de la puissance principale. Ça a toujours marché comme ça. Et donc, il y a une grande civilisation qu'on a un peu oubliée, pour différentes raisons, et qui avait sa monnaie, qui était la monnaie la plus puissante du monde méditerranéen à l'époque. Et cette puissance, c'est le monde arabo-musulman, du 8e siècle. Et la monnaie, c'est le dinar. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que le mot dinar ressemble un peu au mot dollar. Alors, le mot dollar ne vient pas du tout du mot dinar, je vous le dis tout de suite. Il vient de... plutôt du mot thaler, qui était une monnaie germanique, elle aussi oubliée, elle aussi très puissante à l'époque. En tout cas, le dinar, c'était vraiment une pièce, une monnaie tellement importante que, tiens-toi bien, quand les princes catholiques ont commencé à reconquérir les espaces méditerranéens conquis par les musulmans, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait des imitations de fausses pièces de dinar pour pouvoir commercer avec les locaux.
Voilà, c'est ce genre d'anecdote qu'on trouve dans l'incroyable histoire de l'argent de Benoît Sima aux éditions Les Arènes BD. Et puis, au fil de l'histoire, en arrivant à la fin de la BD, bien sûr, on arrive gentiment à notre histoire plus contemporaine, avec aussi des grandes étapes qui ont eu une importance prépondérante pour notre monde d'aujourd'hui. Alors, je pense bien sûr, on vient de s'en dire un mot à la création du dollar, mais aussi la création des banques centrales et la création de la Fed. La Première Guerre mondiale, qui a été suivie de beaucoup d'inflation. Deuxième effet qui se coule avec la Deuxième Guerre mondiale. Et puis ce dollar, qui reste, après ces conflits, la seule monnaie convertible en or. Et puis j'avais envie de t'interroger sur un épisode que tout le monde connaît, mais dont on oublie peut-être l'importance cataclysmique dans le monde de la finance. C'est la fin du système de Bretton Woods en 71. Est-ce que tu as envie de nous dire un petit mot de ça particulièrement ?
Ah oui, en 71, comme on dit en Suisse et en Belgique, hein, c'est ça. Ouais, 71, j'avais oublié. En fait, c'est la fin effectivement du règne sans partage, non pas du dollar, parce que le dollar il règne encore aujourd'hui avec une grande monnaie comme l'euro, mais effectivement, c'est la fin d'une certaine assise matérielle de l'argent, parce que quand même jusqu'en 1971, comme on dit en français, on a quand même une convertibilité possible, qui n'était jamais réalisée, mais de l'argent en or. C'est-à-dire qu'on pouvait théoriquement aller récupérer de l'or au guichet avec les valeurs qu'on possédait. Et ça a assis quelque part l'idée que toute la monnaie est virtuelle aujourd'hui. 95% des valeurs de l'argent aujourd'hui, des monnaies, sont virtuels, sont des écritures. 5%, c'est de la monnaie et un peu d'or, et des métaux précieux. Et c'est le monde dans lequel on vit. Donc c'est vrai que ça a été une révolution parce que ça a accéléré en fait la transformation, la virtualisation de nos échanges monétaires. Et c'est un phénomène qu'on voit beaucoup aujourd'hui avec l'accentuation dans nos pays, notamment européens, des paiements à distance, des paiements immatériels. Bien que l'argent, pièce et monnaie, résiste encore, mais il n'a jamais été aussi faible, en fait.
Alors voilà, on y est. La dématérialisation de l'argent, la monnaie scripturale. On ne s'échange plus la monnaie de la main à la main, mais d'un compte à un compte, via des boutons. Ça implique aussi la possibilité d'une création monétaire à outrance. Ça implique le trading à haute fréquence. Un système financier qui est devenu gargantuesque, critiquable et critiqué. C'est quoi la suite ? Tu crois que ça va tenir ? C'est possible de continuer indéfiniment ou est-ce qu'à un moment le système va s'essouffler ?
Alors je pense qu'on est arrivé au stade ultime de dématérialisation parce que les citoyens qui sont quand même attachés aux pièces et aux billets continuent à en utiliser un minimum. Et les velléités, il est vrai, européennes de supprimer l'argent physique, à mon avis, sont relativement vaines dans ce cas de figure, parce qu'il y a toujours ce désir de posséder des pièces et des billets et de pratiquer l'échange monétaire, sonnant et trébuchant, comme on dit en bon français. Et donc, il y a eu des tentatives. La Suède, je crois, est un pays qui a tenté de faire disparaître complètement l'argent physique, mais la Suède a dû revenir en arrière. Donc c'est bien la preuve qu'on ne peut pas totalement supprimer ce très vieux moyen d'échange et de langage qu'est l'argent, sous sa forme la plus universellement connue, la pièce de monnaie.
Et puis la BD finit aussi sur cette nouvelle ère virtuelle qui fait le lien aussi avec le narrateur Satoshi Nakamoto, inventeur du Bitcoin. Tu nous rappelles le mouvement cypherpunk, cypher qui veut dire message codé, punk voyou, donc le message codé des voyous pour ce qui va devenir le Bitcoin. Le Bitcoin, en quelques mots, on rappelle, c'est une monnaie qui est donc inventée par Satoshi Nakamoto, qui apparaît en 2008 pour faire suite à la crise financière mondiale, et elle se veut décentralisée, rendue au peuple. Et ce serait de l'or numérique. Sur le papier, c'est vrai que quand on lit ton album et qu'on arrive à cette étape du Bitcoin, on a l'impression qu'en fait, sur le papier, c'est une invention extraordinaire.
Oui, sur le papier, c'est une invention extraordinaire, mais il faut bien constater que ça n'a pas pris. Parce qu'en fait, qui échange des Bitcoins ? Une tribu mondiale de passionnés qui, au départ, étaient des activistes anti-banque centrale. Ensuite, c'est devenu des investisseurs un peu plus, mainstream. Mais ça reste une infime minorité. Alors évidemment, il y a un ou deux pays qui ont déclaré vouloir prendre le Bitcoin comme monnaie nationale. Bon, ça reste anecdotique. Et les spécialistes qu'on a interrogés sur l'avenir du Bitcoin, les gens qui suivent vraiment ce sujet, nous disent que c'est un moment de l'histoire financière, mais qui va se terminer. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que la technologie qui sous-tend le Bitcoin, que tout le monde connaît aujourd'hui, qui s'appelle la blockchain, cette technologie-là, elle, vraiment est en train de pénétrer dans nos habitudes. Et a beaucoup d'avenir devant elle, et sans doute qu'elle ne disparaîtra jamais. Par contre, il est possible que le Bitcoin disparaisse dans les années à venir.
Alors voilà, tu racontes tout ça dans l'incroyable histoire de l'argent aux arènes BD, un album dense, un album qui demande aussi un effort de lecture, mais où on apprend beaucoup de choses. C'est dense, mais c'est aussi un travail à deux, puisqu'il y a du dessin. Tu as collaboré avec Tristan Garnier, je crois que c'est son premier album. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la collaboration avec lui ? Parce que c'est vrai que souvent, quand on pense BD, le dessin a une part très importante, et puis de temps en temps, le dessin doit laisser place à l'écriture. Là, on a l'impression que le défi était peut-être inverse, que l'écriture devait laisser place au dessin. Comment vous vous êtes entendu, vous, sur ce côté-là ?
En fait, on a fait comme on fait pour tous les albums documentaires, c'est-à-dire que moi, je bien sûr, j'écris mon texte, mais en écrivant mon texte, je place les textes comme le ferait le dessinateur. C'est-à-dire que je fais une sorte de storyboard. Exactement comme font d'ailleurs les gens qui font des documentaires télé, encore une fois. Il y a beaucoup de cousinage entre les deux. Donc, je laisse une place au dessin importante parce que je pense que, on l'a dit tout à l'heure, le premier plaisir, c'est l'humour. Le deuxième, c'est le travail artistique pictural. Et après, vient le savoir. Et si on veut que ça fonctionne comme ça, il faut absolument que le dessin soit prioritaire. Et le placement des textes doit non pas s'effacer devant le dessin, mais doit l'accompagner. Et c'est là où c'est extrêmement frustrant pour le scénariste que je suis, et que nous sommes tous, nous sommes plusieurs dans cette collection, il faut se limiter. Il faut faire court, comme on dit.
Combien de temps à travailler ensemble sur cet album ?
Alors, un album de la collection, c'est toujours pareil, c'est un an. Donc moi, je mets 4 mois à écrire, 4 ou 5 mois à tout écrire, et le dessinateur met 10, 11 mois à tout dessiner. Et voilà, on avance... main dans la main, moi avec quelques semaines d'avance. Mais en tout cas, c'est assez long en fait à réaliser. Hein. C'est 10 mois minimum.
Ouais, on peut le comprendre. Ton prochain Incroyable Histoire 2, ce sera quoi ?
L'incroyable histoire de la préhistoire.
On prend note. C'est sortie prévue pour quand ?
Rentrée 2025.
Benoît, pour finir l'émission, on a l'habitude de poser des questions débules.
Complètement débules.
Eh oh, il te manque une case.
T'es débule.
Bon, écoute, je suis quand même obligé de te poser cette question parce qu'on est toujours un peu à la recherche du scoop quand même. Tu nous connais, les médias, toi, en tant que journaliste, justement. Oui, est-ce que Satoshi Nakamoto, c'est toi ?
Non, c'est pas moi. Et c'est pas Tristan Garnier non plus.
tu penses que c'est qui ?
Je pense que c'est Donald Trump.
Est-ce que tu es Bitcoin maximaliste ?
Non, bah, j'aime bien avoir des... D'ailleurs, je paye, plus ça va, plus je paye avec des billets. Et des pièces.
Alors, je te dis la séparation de l'Église et de l'État, et que je rajoute la séparation de la monnaie et de l'État, même combat ou pas ?
C'est pas le même combat, non, parce qu'il n'y a pas d'État sans monnaie, par contre, il peut y avoir un État sans religion, sans religion.
Combien vaut le billet de 1 000 $ Silver Certificate de 1891 ?
Je crois qu'il a été vendu 3 millions de dollars.
Alors c'est, ouais, je crois que c'est, j'ai lu 2 millions 6 dans, en page 157, mais tout ça pour dire que voilà, les collectionneurs, ils s'arrachent hein, certaines monnaies anciennes, certains objets historiques.
Les dollars, c'est sont les héritiers de la guerre civile américaine, qui est déjà un traumatisme pour les Américains, ce qui rend le billet encore plus cher, surtout les premiers, qui étaient des billets de 1000 dollars.
Combien vaudra un bitcoin en 2891
42 000 euros.
Quel était le nom de cette rivière d'Asie mineure, dans l'actuelle Turquie, sur laquelle il suffisait de se baisser pour y ramasser de l'or ?
Le pactole.
Pourquoi dit-on thésaurisé et pas trésorisé ?
Très bonne question, j'en ai aucune idée.
Bon, avec toutes les banques et notre franc suisse, tu penses quoi justement de la Suisse et de sa place dans le monde financier monétaire ?
Bah moi j'aime bien la Suisse parce qu'ils ont gardé le franc.
Tu places ton argent en or, en actions, en épargne, en bitcoin ou en Suisse ?
En vin, évidemment.
Et est-ce qu'à force de parler d'argent, on n'a pas oublié un peu de parler de BD ? Tu t'en lis, toi, des BD ?
Je m'aperçois que plus j'en écris, moins j'ai le temps d'en lire, ce qui me frustre énormément. Avant, j'étais un lecteur de BD très assidu, je le suis beaucoup moins en étant devenu moi-même scénariste à plein temps.
Bon, et tu sais que la BD, elle a été inventée à Genève, hein ?
Oui, par un certain Topfer.
Rodolphe Topfer. Bon, écoute, Benoît, voilà. Qu'est-ce qu'on te souhaite ? Santé, bonheur, argent ?
Ouais, plutôt santé.
Et bah écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. En tout cas, c'était un plaisir de t'avoir dans l'émission. Merci, à très bientôt.
Un plaisir de parler à nos amis suisses.
Et pour finir, la sélection de quelques albums que nous vous conseillons si vous souhaitiez vous caler une petite bande dessinée tout prochainement. On commence avec Ladies with Guns, le tome 3. Qui clôture le premier cycle de cette série qui vient bouleverser les codes du western traditionnel via un groupe de 5 femmes qui se confrontent à l'ambiance habituellement si masculine du genre et de l'époque. Dans l'Amérique profonde de la conquête de l'Ouest, voici 5 bonnes femmes qui revendiquent leur droit à vivre indépendantes et à être hors la loi en toute liberté.
Elles sont couillues.
Des vraies femmes cowboys qui n'ont rien à voir avec des cowgirls qu'on pourrait imaginer femmes-objets. Elle rivalise plutôt à coups de revolver avec des hommes soudainement déroutés par une telle gente féminine.
Bisous, bisous.
Dans ce troisième album, les ladies sont en prison.
Oups.
Inutile de dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de prison de femmes. Alors elles se retrouvent au milieu de prisonniers hommes qui ont bien décidé de leur en faire baver, voire même de profiter d'elles pendant les douches communes.
Les salauds.
Comme on peut s'en douter, quelques coups de pied dans les couilles risquent de voler et ça sent l'évasion spectaculaire. Une série jouissive et qui donne un coup de jeune au genre. Ces Ladies with Guns sont une forme d'anachronisme auquel on s'habitue volontiers. Un premier cycle très réussi, des personnages et une ambiance bien installée, de l'humour et un scénario efficace de Olivier Bocquet et un dessin explosif de Anne-Laure. Les Ladies with Guns, c'est aux éditions d'Argo. On continue avec Vierge, la folle histoire de la virginité.
C'est quoi cette BD ?
Défloraison, vaginisme, hymen, dépucelage, menstruation.
Oh là là, mais tu délires là.
Dites donc, je vois certains messieurs au fond de la salle qui baissent les yeux.
Oups.
Et pourtant, la virginité semble une vertu bien souvent chère aux hommes. Et ce, depuis la nuit des temps et dans de nombreuses cultures.
Ouh.
Mais pourquoi ce culte de la virginité, jusqu'à en devenir un fantasme érotique pour certains et même des promesses de paradis pour d'autres ? Voici un sujet qui mérite bien d'être traité en BD. En image, avec humour, avec la justesse des mots et le recul de l'histoire, voici un album qui dévoile les dessous d'un mythe toujours puissant et plus riche de sens qu'on ne l'imagine.
Oula.
Vierge, c'est de Élise Thiébaud et Eléa Baird aux éditions Le Lombard. Et on termine avec Black Squaw, le tome 4, qui vient clôturer en 4 albums donc la folle histoire de Pacey Coleman.
C'est qui celle-là ?
Femme amérindienne née pauvre et noire dans l'Amérique ségrégationniste des années 20. Elle deviendra la première femme noire pilote d'avion.
Oula, attachez vos ceintures.
Ce genre d'histoire incroyable qui semble dépasser la fiction alors que c'est bien la réalité. Quelles étaient les chances que Bessie ait un tel destin ? C'est sa volonté qui l'emmènera très loin. Même jusqu'à tremper dans le crime organisé.
What ?
Avant de le combattre en aidant les services secrets. Elle défendra aussi la cause des minorités et officiera en tant que voltigeuse dans des spectacles aériens.
Avril et looping.
Au fil des péripéties de sa vie, sa passion restera toutefois unique. Tenir le manche et voler. Dans des albums hauts en couleur, voici l'histoire, un poil romancée, d'une femme qui a marqué son temps et l'histoire de l'aviation. Dans ce dernier tome qui clôt l'histoire, on aime la fin un peu plus heureuse que la réalité, puisque Bessie est morte dans un accident d'avion à 34 ans, alors que dans la BD, la dénommée Black Squaw semblerait pouvoir continuer sa vie
en toute discrétion.
Tout est bien qui finit bien.
On aime les histoires qui finissent bien. Et cette série, Black Squaw, de Yann au scénario et Alain Aurier au dessin. C'est aux éditions Dupuis.
Voilà, voilà. Alors, bonne lecture.
Et comme on dit dans l'émission, les bulles, il n'y en a pas que dans le champagne, mais aussi plein les BD. Et le 9e art, lui, se consomme sans modération. Alors,
soyez des bulles.
Complètement des bulles.
T'as des bulles ou bien
on dirait qu'il te manque une case.
T'as des bulles ou bien
il te manque une case.
Complètement des bulles.